Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le béryllium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors nous étudions ce livre de Genèse parce que nous disons que pour réussir nos destinées, il faut comprendre nos origines. Le mot qui a donné le titre du livre, Genèse, c'est le mot que vous voyez en verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Ce même mot est souvent traduit les générations, les descendants, les résultats, la suite. Après, on va avoir les générations de Noé, les générations d'Abraham. Mais le mot même est intéressant parce que tantôt c'est traduit les origines, tantôt c'est traduit les descendances ou les générations ou ce qui suit. Donc nous voyons déjà là, dans ce livre, il y a un lien entre d'où nous venons et où nous allons. Le livre de Genèse, c'est un livre qui veut retracer les origines, mais c'est aussi un livre qui veut générer des avenirs pour le peuple juif qui recevait ça directement de Moïse avant d'entrer dans le pays promis. Mais aussi, c'est un livre pour nous qui nous parle et qui nous aide à réussir nos destinées. Nous avons déjà parlé de l'origine du monde. La semaine dernière, nous avons parlé de l'origine du mal. Et ce matin, c'est l'origine de l'être humain, c'est-à-dire l'origine de moi. Nous avons l'origine ici de l'être humain, mais ce n'est pas juste n'importe quel être humain. Selon la Bible, Adam n'était pas juste un gars comme un autre, c'est-à-dire un Franck, un Arthur, un Tom. Non, Adam, son nom veut dire l'homme, son nom veut dire homme, son nom veut dire être humain. Si tu croisais Adam ici en France et tu lui demandes comment t'appelles-tu, il répond je m'appelle être humain, je m'appelle l'homme. Alors c'est parlant et la Bible va dire qu'Adam c'est pas juste un homme comme un autre, il est le représentant de toute la race humaine et c'est pour ça que nous-mêmes, son histoire, sa création nous concerne en tant qu'être humain. Donc regarder à Adam, ça nous permet de répondre à un certain nombre de questions, notamment des grandes questions sur la vie, le sens de notre existence. Et c'est pour ça que ce récit est fondateur et les messages sur les origines, c'est vrai, ont un côté un peu philo, un peu existentiel, mais c'est parce que Genèse veut être un livre qui retrace nos origines pour nous aider à réussir nos destinées. Or, le grand dilemme, la grande difficulté de notre époque, de l'époque moderne, c'est de vouloir que nos origines n'aient pas de sens, mais que nos vies aient un sens. On veut insister que nos origines n'ont pas de sens, purement le hasard, purement un accident, mais on ne veut pas que nos quotidiens et nos avenirs et nos choix soient aussi que des accidents. C'est un dilemme, c'est une contradiction, et certains philosophes ont reconnu, Ils ont eu au moins l'honnêteté de dire effectivement, en affirmant que nos origines sont purement le hasard, en affirmant que nos origines n'ont pas de sens, on ne peut pas vouloir chercher un sens à notre vie aujourd'hui. Et pourtant, l'homme ne cesse de chercher et de se poser des questions sur le sens de sa vie. Vous avez par exemple Freud. Lui, voici ce qu'il dit. Quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie, on est malade. Car tout ceci n'existe pas de façon objective. Voilà, quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie, on est malade. Donc ce matin, on va faire un truc de malade. On va se poser trois grandes questions avec ce texte. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Et comment puis-je réussir ma mission sur Terre? Comment puis-je le faire? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Et comment puis-je le faire? Ça, c'est des questions qui touchent au sens de la vie. Selon Freud, on est malade de les poser si nos origines sont purement le hasard, mais nous croyons que l'homme ne cesse de poser ces questions parce qu'il confirme qu'il est. Il est un descendant d'Adam, il est cet être humain qui nous est présenté ici. Donc la première question, qui suis-je? Et ce chapitre nous aide à répondre. Si chapitre 1 de Genèse présente l'origine de tout l'univers, chapitre 2 fait un zoom sur l'être humain. C'est-à-dire dans ce chapitre, on change d'optique, on change de point de vue. Le point de vue dans chapitre 1, c'était tout le cosmos, notamment en 6 jours. Nous avons vu comment l'auteur présente les choses de manière très symétrique, 3 jours et 3 jours, où Dieu crée des cadres, puis Dieu remplit des cadres. Un cosmos, c'est-à-dire quelque chose d'harmonieux. Et puis, on change de point de vue ici, et on ne réfléchit plus en termes de 6 jours, on réfléchit en termes de avant l'homme et après l'homme. C'est l'homme est le pivot, l'homme est capital ici. Et d'où explique les premiers versets, versets 5 et 6, je pense que ça décrit un peu l'époque que décrit les premiers versets de Genèse, du point de vue de Moïse par exemple, mais il y avait avant l'homme et après l'homme dans ce chapitre. Donc déjà, en faisant un zoom sur l'être humain, ça montre que l'être humain est spécial, c'est ce que les lectures ce matin ont montré dans le psaume 8. Et dans Hébreux 2, que l'homme, de toute la création de Dieu, l'homme est vraiment spécial, l'être humain est spécial, il est fait à l'image de Dieu. Et ici, on fait un zoom sur lui. On ne fait pas un zoom sur les comètes, on ne fait pas un zoom sur les grenouilles, on ne fait même pas un zoom sur les anges, sur la création des anges. On fait un zoom sur l'être humain. Donc, déjà, l'être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est une première réponse qu'on peut donner. Qui suis-je? J'ai de la valeur, je suis quelqu'un qui est précieux aux yeux de Dieu. Qui suis-je? En Occident, le récit de base, c'est, pour répondre à cette question, le récit, la réponse de base, c'est que vous êtes un amas de cellules et pas plus. Vous êtes un amas de cellules, produit d'accidents, de hasard, du hasard. Alors, c'est pas évident de répondre à la question « qui suis-je » si c'est ça le récit de base. Vous n'êtes qu'un amas de cellules qui se sont retrouvées par une série d'accidents. Si c'est ça, c'est ça le fondement. Alors effectivement, quand on cherche à répondre à qui suis-je, on se tâtonne un peu. Et quelque part, le récit moderne, c'est puisqu'on est en évolution, puisqu'on est purement produit du hasard, c'est à vous de le dire, c'est à vous de le chercher, c'est à vous de trouver, c'est à vous d'inventer la réponse à cette question. On vous dit, voilà, c'est le message, l'évangile du siècle, vous pouvez être, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Parce que vous décidez, vous inventez, vous vous définissez, vous vous donnez votre propre identité, puisque vous n'êtes qu'un amas de cellules qui peut évoluer comme bon vous souhaitez. Et ça interpelle, il faut dire qu'il y a une force d'attraction à cette offre, que vous pouvez devenir, vous pouvez vous donner votre propre identité. Je pense que c'est un des atouts des réseaux sociaux. Cette possibilité de se créer, de se donner un nom, de se donner une image, de se donner une présentation, ça interpelle l'homme moderne. Encore, ça va plus loin de nos jours. On se donne une orientation sexuelle, on se donne la physique qu'on veut. Mais tout ça, c'est dans la ligne de cette pensée. À vous de vous faire évoluer, à vous de vous donner une identité, parce que le hasard, l'univers, ne va pas vous l'accorder. Mais j'aimerais dire ce matin que cette tâche de se créer, cette tâche de se donner une identité, c'est une charge très lourde à porter finalement, et c'est quelque chose qu'on ne réussit pas bien en Occident, d'où on parle constamment de crise identitaire. Dans la Bible, c'est un grand privilège d'être nommé par Dieu, de recevoir de lui notre nom, notre identité, notre être. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est beaucoup plus facile à vivre avec Dieu qui nous donne notre identité que de devoir se le créer soi-même. Et donc nous voyons dans le verset 7, par exemple, toute une aide pour répondre à cette question: qui suis-je? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. D'après ces versets, nous ne sommes pas que de la matière, pas que de la poussière. Nous avons quelque chose de, on va dire, de spirituel, quelque chose de immatériel. On peut appeler ça l'âme, mais on voit que Dieu souffle. Et quand Dieu souffle, le mot hébreu souffle ou esprit ou vent, c'est tout la même chose. Donc Dieu accorde en quelque chose de spirituel, quelque chose de lui-même à l'homme pour faire que l'être humain est vraiment à part. Il n'est pas qu'un amas de cellules, il n'est pas que de la poussière, il est une âme. Ça veut dire, pour répondre à la question « qui suis-je ?», je suis un être physique, mais aussi spirituel, et avec une âme éternelle, et que Dieu veut être en relation avec moi. Ce que nous voyons dans la suite, une fois qu'Adam reçoit ce souffle de vie, cette âme vivante, il peut entendre, recevoir la parole de Dieu, y répondre, puisque Dieu lui parle, lui donne un commandement. Il peut faire confiance à Dieu, puisque Dieu lui donne une interdiction par rapport à l'arbre. Il peut remercier Dieu pour la vie, pour toutes ces bonnes choses agréables que Dieu met autour de lui, comme indiquent les versets. Et donc, il est un être spirituel. Et peut répondre à Dieu dans le service, dans l'obéissance, dans la foi, dans la reconnaissance. Et il me semble que là, nous avons toute la base d'une spiritualité saine, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, faire confiance à Dieu, remercier Dieu, se savoir aimé, voulu de Dieu. Voilà, une spiritualité saine, une dimension de notre être qui doit être développée. Et si vous enlevez cette dimension de l'être humain, si vous enlevez cette dimension de l'âme, cette dimension de l'esprit, cette relation avec son Créateur, avec son Dieu, forcément, l'être humain ne peut pas atteindre tout son potentiel de service et d'épanouissement. Et vous risquez la crise identitaire qui est si répandue. Alors cet aspect spirituel, qui suis-je? Je suis un être spirituel pour être en relation avec Dieu. Est-ce que cela correspond à notre vécu? Est-ce que cela correspond à ce que nous constatons dans le monde aujourd'hui? Parce que dans tout ça, il faut prendre les différentes théories sur nos origines et voir si ça explique au mieux ce que nous voyons et ce que nous vivons. Est-ce que l'homme est spirituel? Est-ce que l'homme a cette recherche d'une relation avec Dieu? Et c'est là où il y a plutôt des choses surprenantes à notre époque. On s'est dit, il y a quelque temps, qu'avec le progrès, avec la science, on a constaté l'histoire de l'Europe, qui est devenue de plus en plus séculier, de plus en plus athée, et on s'est dit, voilà, les croyances, la spiritualité, c'est plutôt une chose primitive. L'homme aéré fait ça, mais lorsqu'il y a progrès, lorsqu'il y a science, lorsqu'il y a technologie, l'homme devient de moins en moins spirituel. Et c'est vrai que la vision athée a proposé de fonctionner sans Dieu. Mais finalement, on constate que ça a laissé un grand vide qui se remplit tout autant avec plein de spiritualités, des spiritualités mystiques, des spiritualités erronées, des spiritualités extrémistes, comme nous voyons aujourd'hui. Mais le monde entier, si vous regardez les données dans le monde entier aujourd'hui, le monde devient de plus en plus spirituel, pas de moins en moins. Cela confirme le récit ici que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Cette relation a été rompue et maintenant l'homme cherche dans tous les sens, mais ça n'empêche qu'il a une côté spirituel, une âme. Dernière remarque, vous voyez que Dieu, quand il crée Adam, il souffle dans ses narines. C'est un geste très proche, très personnel en quelque sorte. C'est dans le chapitre 1, Dieu il crée tout par sa parole. On a l'impression qu'il est là dans son ciel et puis tout se crée. Ici, on a l'impression qu'il s'approche, il se salit les mains, si on peut dire. Il n'y avait pas encore de la saleté, mais avec la poussière, cette proximité à Adam pour souffler dans ses narines, il y a un côté très personnel. D'ailleurs, en chapitre 1, on parle que de Dieu, le Dieu, Elohim, mais en chapitre 2, déjà, maintenant, on précise le nom de Dieu, l'éternel Dieu, c'est-à-dire Yahvé, et maintenant, c'est le Dieu que les Juifs connaissent, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu Yahvé éternel. Donc, il devient plus personnel dans ce chapitre 2 pour nous rappeler que, oui, il veut être en particulier en relation avec l'être humain. Et puis ce mot Dieu forma, façonné, le mot sous-entend une intention, un but, un projet, un désir que l'homme existe. C'est tout le contraire de vous êtes un accident. Dieu, le mot forma, c'est très proche au mot potier, comme un potier qui sculpte un vase d'argile. L'être humain est cette sculpture de Dieu, et ce qui nous donne de la valeur, c'est ce qui nous permet de répondre à lui. J'ai un fils qui fait de la sculpture, et il rentre à la maison avec des belles choses qu'il a sculptées avec l'argile. J'ai un autre fils plus jeune, parfois, lui, il renverse un verre de lait sur la table. Une sculpture voulue, jolie, et puis du lait sur la table. Voilà ce que mes deux fils sont capables de faire. Le récit de base de l'évolution et de l'athéisme dit « Vous êtes ce tache de lait sur la table. Maintenant, débrouillez-vous à trouver une forme, une identité qui vous plaît. » Mais le récit de la Bible, c'est que vous êtes une sculpture recherchée, formée avec l'art, et ça vous donne une identité, ça vous donne un nom, ça vous donne une raison d'exister. Vous pouvez avoir une relation avec Dieu. Est-ce que vous préférez être un accident ou une œuvre d'art? Ce passage nous permet de répondre à ça. Qui suis-je? Je suis une créature de Dieu. Ensuite, pourquoi suis-je sur la terre? Y a-t-il une raison de mon existence? Dans les mythologies anciennes, comme le récit moderne scientifique, l'être humain est un accident, comme nous venons de dire. Mais dans ce récit, l'être humain n'est pas un accident, n'est pas un défaut, n'est pas une tâche sur l'univers, sur la planète. Justement, on a dit que le mot « former », ça sous-entend une intention, un but, un projet. Dieu a fait exprès, Dieu a voulu que l'homme soit sur la terre. Alors pourquoi, selon Genèse 2, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Et on a plusieurs indices ici, dans ce chapitre. La raison ultime, bien sûr, c'est de glorifier Dieu, c'est de servir Dieu. Mais si on reste à ce chapitre 2, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Et nous apprenons dans les versets qui suivent, Dieu crée l'homme, et juste après, Dieu plante un jardin dans cette région d'Éden. Et puis, il met l'homme pour cultiver, pour entretenir, pour garder, pour gérer, pour faire fructifier le jardin. Le verset 5 et 6 d'ailleurs dit que les choses ne poussaient pas parce qu'il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver le sol. Et puis Dieu fait ce jardin et il place l'homme, crée l'homme et place dans le jardin, dans le but exprès de faire fructifier le jardin. Et donc c'est la première question, si nous répondons qui suis-je, je suis un être spirituel pour être en relation avec Dieu. Cette deuxième question, pourquoi je suis sur la terre, c'est pour cultiver, faire fructifier, produire à l'image de Dieu lui-même qui est créateur. Comme lui, il a transformé le chaos en harmonie, il a transformé le vide, il a rempli, il a transformé la stérilité du néant en fertilité. De la même manière, il nous a créé à son image pour faire ça dans tous les aspects de notre vie, pour cultiver. Donc nous sommes des êtres, on va dire, culturels. Nous avons une dimension culturelle. Nous avons une dimension spirituelle, mais une dimension aussi culturelle. Il me semble que cette vision-là, mieux que toute autre, valorise le travail, la famille, l'art, le ménage de l'Église, l'innovation, tout qui entre dans ce cas, cultiver, garder, faire fructifier, produire, enjoliver, tout ce que Adam va faire, censé faire, dans ce jardin d'Éden. D'ailleurs, c'est très intéressant, le paradis dans la Bible, le paradis c'est un jardin. Le mot paradis, la chorale l'a dit hier soir à Saint-Gaudens dans son concert, le mot paradis, c'est le mot jardin en grec. Le paradis, dans la Bible, ce n'est pas un nuage. Le paradis, c'est un jardin où les choses sont cultivées, où les choses fleurissent, où les choses sont harmonieuses, où les choses sont produites. Il me semble que les détails, ici, dans ce texte, ces fleuves et ces pierres précieuses entrent dans ce message fort que Éden est un lieu, le jardin d'Éden est un lieu où l'homme va produire de la culture, au-delà juste des plantes. Mais il va cultiver le monde, c'est l'idée. On mentionne ces fleuves, un fleuve qui sort du jardin d'Éden et qui se divise en quatre bras. Et puis on mentionne aussi des pierres précieuses. Je me suis toujours posé la question, pourquoi à ce moment Moïse mentionne ces choses, puisque c'est pour la suite. Mais il me semble que cela reflète aussi l'aspect culturel de l'homme. Par exemple, on parle du fleuve qui se divise en quatre bras. Tout le monde sait que le fleuve, encore aujourd'hui, est poumon de la production, est source de productivité, source de culture, source de fertilité. Toutes les grandes villes, tous les centres culturels encore en Europe sont situés sur des fleuves, avec une fleuve qui traverse. Donc la croissance de Paris, de Toulouse, de Marseille, de Lyon, c'est grâce, dans l'histoire, c'est grâce au fleuve qui traverse. Et eux, ils reconnaissent ça, que déjà l'Euphrate, ils voient la fertilité que ça donnait à cette région. Ou encore, on évoque des pierres précieuses, de l'or, de l'onyx, où on prévoit déjà la manière que l'homme saura miner, créer la richesse, à part prendre quelque chose de brut et créer quelque chose de précieux. L'or dans la terre ne sert à rien, mais l'homme, c'est l'être humain qui fait ça, ce n'est pas des animaux, c'est l'être humain qui peut prendre ces choses et en faire une vraie richesse, une richesse artistique, une richesse financière, une richesse culturelle. Donc tout ça pour montrer que le jardin d'Éden, ici, est source de richesse culturelle, par ses fleuves, qui vont aussi impacter les pierres précieuses. Et l'homme a la mission de cultiver tout ça. C'est la raison que Dieu l'a créé, elle l'a mis sur la terre pour être fructueux, fécond, productif dans tout ça. Ça aussi, ça nous interpelle, ça explique une grande partie de notre vie. Nous allons parler plus tard du travail, ses défis, ses difficultés. Mais vous passez une grande partie de votre vie à cultiver et à garder des choses. Ça peut être au travail ou à la famille. Ce n'est pas évident depuis la chute, mais c'est une vision de l'être humain qui valorise la plupart de nos activités. Et nous savons, et tout le monde est d'accord, que finalement le contraire de produire, de cultiver et de garder, c'est gaspiller, détruire, abuser, mal exploiter. Ces choses-là l'être humain partage cette conscience que ces choses-là ne sont pas bien, de gaspiller, de détruire, d'exploiter. Mais c'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, qui lui-même est un Dieu productif, un Dieu actif, un Dieu généreux, un Dieu bon, un Dieu créateur. Et nous pouvons l'être comme lui tout au long de notre vie. Alors, ça touche à tous nos domaines. De quelle manière vous êtes en train de cultiver et de garder des choses aujourd'hui dans votre famille, dans votre église, dans votre travail, dans votre vie personnelle? Il y a un épanouissement quand vous faites cultiver les choses que Dieu vous confie, comme Adam. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? Comment puis-je le faire? Qui suis-je? Je suis un être spirituel pour être en relation avec Dieu. Pourquoi je suis sur la terre? Pour cultiver, multiplier, j'ai une dimension culturelle qui s'épanouit dans la production, dans la fertilité. Comment puis-je le faire? Eh bien là, nous voyons que nous sommes aussi des êtres sociaux, des êtres relationnels. On a besoin des autres pour le faire. Et c'est ce que Dieu constate tout de suite. Après avoir créé l'homme, il lui donne sa mission, et puis immédiatement après, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul pour cette mission. » Verset 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, cette mission du point 2, vous ne pouvez pas le faire tout seul. On a besoin d'être accompagné, puisque nous sommes finalement des êtres relationnels, des êtres sociaux. Alors évidemment, cette expression relationnelle, cette expression sociale, avec un vis-à-vis, complémentaire, un aide complémentaire, un coéquipier. Cette vision trouve son expression finale, ultime, dans le mariage, que nous allons étudier la semaine prochaine. Et nous voyons dans la suite la création d'Ève et comment Dieu a institué le premier mariage, Adam et Ève. Mais avant même d'arriver au mariage et les détails du mariage, et aussi les défis et difficultés du mariage après la chute, parlons simplement de ce verset, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Déjà, nous voyons notre besoin d'être en relation avec d'autres, notre besoin d'être en équipe, en communauté, pour s'épanouir en tant qu'être humain. Et ça aussi, ça confirme le récit de la Bible, parce que regardez, les êtres humains cherchent des relations. Ils sont relationnels, ils ont soif de ces relations. Évidemment, dans ce monde déchu, ce qui est très difficile, c'est les ruptures, c'est les conflits relationnels, c'est les séparations. Mais ça confirme que nous avons été créés pour être en relation avec d'autres. La solitude n'est pas le summum de la spiritualité ou de la maturité. Adam était tout seul dans le jardin d'Éden et ce n'était pas bon. Jusque-là, tout est bon et là, ce n'était pas bon. La solitude n'est pas le summum de la spiritualité ou de la maturité. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a écrit un peu sa vision des choses. Et il y a un livre qui s'intitule « Rêverie du promeneur solitaire ». Selon lui, le secret du bonheur, c'est un isolement relatif, une vie paisible et surtout une relation fusionnelle avec la nature. Rêverie du promeneur solitaire. Parfois, certainement, vous avez envie d'être tout seul dans la nature et c'est merveilleux. Et selon lui, c'est le secret du bonheur. La chose que Adam avait ça, et ce n'était pas bon. Et si on est honnête avec nous-mêmes, nous ne voulons pas finalement, dans cet univers, être des promeneurs solitaires. Ce n'est pas ça l'épanouissement. L'épanouissement, c'est de ne pas être seul. Et vous le savez, un des plus riches aspects d'être un humain, d'être homme ou femme, c'est une chose qui donne vraiment un sens à notre vie, ce sont nos relations avec les autres. Que ce soit des amitiés, qui encore trouvent son meilleure expression dans le mariage, mais les amitiés, les échanges, l'amour qu'on peut échanger avec un vis-à-vis, avec Dieu, et puis avec nos prochains, c'est un des aspects les plus riches d'être un être humain. Les animaux, il y a des instincts qui les mettent ensemble, mais on ne voit pas cette amitié, cet amour qu'on trouve chez les êtres humains. Nous savons, nous avons besoin d'amour et nous avons besoin de donner l'amour aux autres. Et cet amour ne peut pas s'exprimer dans la solitude et dans le vide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu lui-même n'était pas un Dieu, un promeneur solitaire à travers l'éternité. Dieu lui-même est Trinité, explique la Bible. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc Dieu de toute éternité vivait lui-même dans une relation d'amour. La création de l'univers, ce n'était pas parce qu'il s'ennuyait tout seul dans l'univers. La création de l'univers, c'était un débordement de son amour, de cette partage, de cette communauté que représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et dans le but de faire inclure d'autres, de faire déborder cet amour dans la vie des autres et de le partager, de les inclure, Dieu crée l'homme. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que Dieu lui-même n'est pas seul. C'est le seul Dieu, un Dieu unique, mais en trois personnes, comme affirme la doctrine chrétienne. Et nous, créés à l'image de Dieu, il n'est pas bon que nous soyons seuls. Nous avons été créés pour être en relation avec d'autres, en relation avec lui et en relation avec d'autres. Et donc la vision de la Bible, c'est celle qui cadre, je dirais, le plus avec notre vécu. Si vous êtes qu'un amas de cellules par accident, d'où vient cette soif, d'où vient ce désir, d'où vient cette envie de relation profonde, d'amour, d'échange? Nous croyons que cela nous vient de Dieu qui nous a créés à son image. Alors, qui suis-je? Je suis un être spirituel pour être en relation avec Dieu. Pourquoi je suis sur la terre? Pour être avec une dimension culturelle, pour bien gérer le monde et la planète et la terre autour de moi. Et comment puis-je le faire avec les autres? Donc, il y a une dimension spirituelle, moi avec Dieu. Il y a une dimension, moi, avec le monde autour de moi. Il y a une dimension, moi, avec les autres. Et ça, c'est une vision glorieuse de l'être humain, c'est une vision glorieuse de l'humanité quand toutes ces choses sont réussies, sont équilibrées, sont mises en place. Alors évidemment, le chapitre suivant, et c'est l'avantage, nous avons déjà étudié, nous ne l'avons pas fait dans l'ordre, nous avons fait l'origine du mal la semaine dernière avec Dynamic Jeune. L'avantage, c'est que vous savez ce qui suit. Tout ça, ça va être cassé. La relation avec Dieu va être rompue, la relation avec le jardin va être rompue, et la relation avec l'autre, déjà Adam et Ève, va être rompu. Mais toute la Bible nous pointe vers un retour à cet état des choses, à ce jardin, ou encore un meilleur jardin que nous trouvons à la fin de la Bible, où nous retrouvons l'arbre de vie, nous retrouvons le fleuve, la source de vie qui sert à la guérison, nous retrouvons l'amour, nous retrouvons une communion parfaite avec Dieu. Toute la Bible nous pointe vers ce retour. Et le message de l'évangile, c'est que Jésus, qu'il était dans cet amour parfait, dans cette communauté parfaite avec Dieu, il a quitté, il est venu ici-bas. Et lui-même, il a connu la solitude la plus ultime à la croix. Il était tout seul, abandonné de ses disciples, abandonné de son Père. Il est devenu tout seul parce qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls pour l'éternité. Alors il était seul un moment sur la croix pour que nous soyons avec lui pour l'éternité.